Bienvenue pour cette nouvelle table ronde. Donc là, la thématique, c'est le recyclage permanent des archétypes, notamment de ceux des héros, mais pas seulement, mais en tout cas, principalement, comment les héros sont sans cesse recyclés, donc de la mythologie antique jusqu'à nos jours, c'est-à-dire jusqu'à Star Wars, quoi. Donc Claude Lecouteux, qui est professeur émérite des universités, spécialiste de la littérature germanique et non pas seulement allemande, teutonique même, enfin et un peu scandinave aussi, beaucoup scandinave, et un grand spécialiste donc aussi du Moyen-Âge, du bestiaire, des croyances médiévales, la magie, des monstres. Voilà, donc c'est vraiment une grande référence dans ce domaine, qui le rend très inquiétant d'ailleurs. Et Jean-Rodolphe Turlin, qui est, lui, un passionné de Tolkien et qui, du coup, par sa passion, est devenu aussi un spécialiste de l'œuvre de Tolkien. Et, vous avez écrit un livre, d'ailleurs, quelques-uns même. Notamment le royaume mythique. Vous allez en parler de toute façon, mais ça, c'est quelque chose que tous les deux, vous maîtrisez d'ailleurs très bien.
Claude Lecouteux me laisse l'honneur d'ouvrir un petit peu cette discussion. Je suis évidemment très flatté et en même temps très angoissé, parce que ce n'est pas facile de démarrer une table ronde qui est rectangulaire d'abord. Ensuite, sur un thème qui n'est pas évident, hein, finalement, le recyclage des mythes, c'est un thème qui... d'abord, le titre, moi, si Claude en est d'accord, on peut peut-être le changer un petit peu, parce que recyclage, ce n'est pas très joli, ça fait un peu industriel, ça fait lutte contre le gaspillage. Les mythes, ce n'est pas vraiment du gaspillage. Hein, moi, j'utiliserais plutôt le terme de réemploi.
Je propose aussi sédimentation. C'est-à-dire introduction et dépôt dans les textes beaucoup plus récents.
Ça me va aussi. Merci Pascal. Donc ce réemploi des mythes, cette sédimentation des mythes dans le temps, qu'on retrouve de nos jours dans la littérature, dans les contes, dans les légendes. C'est quelque chose qui est permanent, qui n'est pas propre seulement à notre civilisation. Hein. C'est quelque chose qu'on retrouve, je crois, tout au long de l'histoire, quelles que soient les civilisations, pas seulement en Occident, mais aussi dans d'autres, sous d'autres horizons. Nous, on est plutôt spécialistes, plutôt intéressés par ce qui s'est passé en Occident. On restera peut-être dans ce domaine-là si vous en êtes d'accord, mais on est ouvert à toutes les questions. Savoir si on saura y répondre, ce sera peut-être autre chose, peut-être plus Claude Lecouteux que moi.
Le problème, c'est qu'on ne peut pas être universel. Donc, si on ne se concentre pas sur une civilisation ou un ou deux types de civilisations, on risque de raconter n'importe quoi. Donc, nous, on a choisi la civilisation européenne, occidentale et septentrionale, et puis bien sûr méridionale, hein, parce que tout ça forme un ensemble véritablement culturellement indissociable. Et c'est à partir de là donc que nous pouvons présenter soit des interprétations, soit des hypothèses.
Tout à fait. J'acquiesce. comme je ne sais pas trop par quoi commencer, peut-être un petit mot sur le fait que je suis très troublé d'être à côté de Claude aujourd'hui, parce que j'ai lu beaucoup de ses livres et je ne m'imaginais jamais un jour être assis à côté de lui dans cette configuration. Donc ça explique que je ne sais absolument pas par quoi commencer. Peut-être, puisque le titre évoque cette question, peut-être un petit peu parler des mythologies et de leur passage dans le... tout à l'heure. Claude m'enjoint de m'exprimer sur Tolkien, donc je vais en dire deux, trois mots. Ce sera peut-être une belle porte d'entrée, d'ailleurs, puisque l'écrivain anglais Tolkien, c'est un, un écrivain anglais que certains d'entre vous connaissent déjà sans doute, l'auteur du Seigneur des Anneaux, entre autres, et qui du Hobbit et du Silmarillion, qui est un ouvrage extraordinaire. Tolkien, dans un certain sens, pourrait être le symbole littéraire, en tout cas, de ce réemploi des mythes. Dans son histoire, Tolkien était au départ un jeune homme passionné de langues anciennes et de mythologie. Et il était frustré, Tolkien, parce que son pays l'Angleterre, n'avait pas de mythologie. Vous le savez peut-être, il y a eu une rupture dans la continuité civilisationnelle en Angleterre. C'était l'invasion de l'Angleterre en 1066. Et il y a eu une sorte de nettoyage culturel par les franco-normands qui se sont emparés du pouvoir en Angleterre. Et la civilisation anglo-saxonne, finalement, elle est un peu tombée dans l'oubli, ne laissant que quelques fragments à la postérité. Et Tolkien était frustré de ça, et donc il s'est intéressé naturellement aux mythologies voisines, c'est-à-dire notamment, principalement, la mythologie nordique, et puis aussi les mythes celtiques qui imprègnent fortement le monde des îles anglo-saxonnes. Et à partir de là, il a en quelque sorte procédé à un brassage, volontaire ou involontaire, dans la construction de sa propre littérature. Donc il a imaginé des contes, des poèmes, puis il a imaginé des récits épiques qui sont devenus des romans très célèbres, dans lesquels il a introduit des archétypes, des modèles issus des mythologies dont il se passionnait. Donc c'est un très très bel exemple de réemploi des mythologies. Alors, il n'y a pas que la mythologie nordique, hein, je vous l'ai dit, il y a aussi des bouts de mythes arthuriens qu'on peut retrouver assez facilement, notamment dans Le Seigneur des Anneaux. Un peu de mythologie gréco-romaine qu'on peut retrouver assez facilement en lisant entre les lignes dans le Silmarillion, et beaucoup de mythologie nordique quand on s'intéresse au Hobbit. Au-delà du roman écrit sur un ton enfantin, il y a derrière le Hobbit une véritable saga viking. Voilà. Donc Tolkien est un bon exemple. Je ne le dis pas parce que je parle pour ma chapelle, évidemment, mais c'est un bon exemple de réemploi des mythes dans la littérature.
Je vais préciser encore un tout petit peu cette image. Donc, Tolkien occupait en Angleterre, à l'université, la chaire de littérature et civilisation germanique du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il occupait exactement le même poste que celui que j'ai occupé à la Sorbonne pendant de nombreuses années. Donc, à partir de ces lectures obligées, il a construit une œuvre en utilisant non seulement ses travaux universitaires, mais aussi des éditions de textes qu'il a fait, comme par exemple un livre des monstres qui se trouvait dans plusieurs manuscrits, à la fois en vieil anglais et en même temps en latin médiéval, bien sûr. Donc, il a utilisé tout ça pour en faire émerger petit à petit, moi, ce que je considère comme vraiment son œuvre majeure, parce que la plus accessible à moi, donc je suppose un peu au grand public, c'est donc son Seigneur des Anneaux. Et quand on prend le Seigneur des Anneaux, tout ce qu'on va trouver dedans, on le trouve déjà en filigrane dans ses travaux scientifiques. On va prendre un exemple. Les arbres gigantesques de la forêt de
Fangorn.
De Fangorn, merci. C'est beau, ça. Hein. J'avais oublié Fangorn. Eh bien, il les appelle les Ent. Or, Ent, en vieil anglais, ça signifie simplement géant. Donc, vous voyez, là, vous avez une idée de la façon dont il va procéder. Il va littéralement piller, je dis bien piller, la mythologie scandinave, en s'appuyant essentiellement sur deux textes, l'Edda poétique et l'Edda en prose, de Snorri Sturluson. Et à partir de là, il va en tirer, par exemple, tous les noms de nains qu'il va mettre dans son roman. Il n'y a pas que Dori, il y en a des tas, et tous sont, en quelque sorte, parfaitement représentatif de la représentation des nains et de la croyance aux nains et aux elfes, mais là, j'aurais des objections sérieuses, de son époque. C'est-à-dire que quand il prend les elfes et qu'il nous donne la peinture sublime de ces elfes évanescents, ils sont beaux, ils rayonnent, etc. Bon, d'accord, vous avez les elfes de lumière des anciens Scandinaves à l'arrière-plan, mais vous avez surtout la vision des elfes de la période au 19e où on les peint ainsi. Je suis en train désespérément de chercher le nom de ce mouvement artistique. Merci. Ouf, heureusement. C'est beau, la jeunesse. Hein. Alors, les pré-raphaélites. Donc, les pré-raphaélites vous ont concocté des images des elfes que l'on va retrouver après, même au cinéma, dans le Seigneur des Anneaux. Hein. Ils sont vraiment... Et c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Il faut pas oublier ça. De même que les nains dont parle Tolkien, là, il y a un certain nombre de choses à réviser parce qu'il a retenu, lui, que l'aspect positif des nains. Ce sont des artisans magnifiques, des forgerons, etc., etc. Ouais. Seulement, il a oublié de dire une chose, et pourtant, il le savait pertinemment, c'est que le nom en scandinave et en germanique, Dverger, ou bien simplement Dwarf et compagnie, ça signifie tordu. Et le nain est un tordu physiquement et mentalement. Et ça, il faut le savoir. D'où, dans les récits, en général, le nain est toujours mal intentionné. Il est mauvais. C'est lui qui provoque les catastrophes. Donc, vous voyez, mais petit à petit, dès le Moyen-Âge, s'est mis en place, d'une part, une confusion entre les nains et les elfes, pour une raison simple, c'est qu'il existait une véritable croyance très bien attestée aux elfes au Moyen-Âge. L'Église chrétienne n'a pas pu tolérer, supporter que l'on crût à d'autres individus que les saints, Dieu, etc., etc., le panthéon chrétien, et a donc diabolisé ces elfes. Et elle les a fondus avec les nains qui, eux, ne faisaient l'objet d'aucun culte. Alors que les elfes, il existait un culte. Et alors, on en arrive, petit à petit, par l'analyse, si vous voulez, à dégager les différentes strates de l'évolution de ces créatures, à savoir que le nain, hein, le dvergur, le dwarf et compagnie, c'est au départ un mort malfaisant. Et puis ensuite, il va évoluer pour devenir l'espèce de petit gnome, souvent avec un bonnet rouge, bien sûr. Personne n'a jusqu'ici expliqué l'origine du bonnet. Hein, et moitié bonnet phrygien. Ah ben oui, d'où il sort celui-là? Donc, vous voyez, il y a encore des points inexpliqués. Et c'est donc à la jeunesse de les expliquer.
Alors sur l'aspect négatif des nains, pour défendre Tolkien, en fait, au début de l'écriture de sa future mythologie, le nain était un personnage négatif. Il a fait évoluer en fait la figure du nain pendant les nombreuses années de son écriture et de sa réflexion sur le sujet pour se la réapproprier et la rendre partiellement positive. Parce que les nains de l'univers de Tolkien ont quand même, ils sont très orgueilleux, ils sont revanchards, ils ont un très mauvais caractère. Ils ont gardé cette part de négativité, de noirceur que les nains germaniques ont à l'origine. Mais au départ de l'écriture de la mythologie, dans un livre que Tolkien a écrit dans les années 20 et puis auquel il a renoncé avant d'être à nouveau publié à titre posthume dans les années 80, qui s'appelait « Le livre des contes perdus », « The Book of Lost Tales », le nain est un personnage négatif. Et dans le Silmarillion, il a une figure ambivalente, c'est-à-dire qu'il y a des nains qui sont plutôt... alliés aux elfes dans la lutte contre les forces maléfiques, et d'autres nains qui ont gardé complètement cette figure négative, notamment en trahissant leurs alliés et en les livrant aux orques. Voilà, donc la figure du nain est très ambivalente chez Tolkien, elle n'est pas si positive que ça.
La figure du magicien, elle n'est pas tout à fait nette non plus, hein, je dirais. Hein, parce que moi, Enfin, il y en a deux. Il y en a un bon, un qui œuvre pour le bien, et puis un qui œuvre pour le mal. Ainsi, mes souvenirs sont bons. D'accord ? Bon, alors, je vais prendre le bien.
En simplifiant.
Oui, en simplifiant. Oui, mais moi, je suis simple, je suis resté médiéval. Alors, c'est pas quoi. Donc, si vous prenez Gandalf, c'est un nom composé. de Gandhur, ce qui en vieux norrois signifie littéralement magie, hein, charme, sorcerie si vous préférez. Et l'autre partie, c'est Aulfur, qui signifie simplement elfe. Alors là, le champ sémantique est très vaste. Donc c'est ce cher Gandalf, c'est l'elfe à la baguette magique. Et tout de suite, vous avez le personnage qui est planté. Et ça, c'est magnifique avec Tolkien, c'est qu'il utilise avec un grand art la magie des noms. Un peu plus loin, vous avez parlé des, disons, d'influence celtique, etc., donc de reprise, en fait. Mais quand il parle de Arian Rod, par exemple, mais ça y est, on est au plein cœur de la mythologie celtique, cette fois-ci. Et donc, à chaque fois, si vous voulez, le nom propre d'un personnage qu'il met en scène est censé déclencher chez le lecteur une série d'associations. Et si vous avez un minimum de culture, vous associez à un minimum de choses. Si vous avez un maximum, alors là, vous commencez à jouer un jeu très intéressant qui est « Ouais, où a-t-il pris ça ? Ça, ouais, ça vient de là. Ça, ça, tac, tac, tac. » Un espèce, si vous voulez, d'épinglage de l'origine des motifs. Et je trouve ça, alors là, je veux dire, c'est plus intéressant que de faire un sudoku ou des mots croisés.
On a beaucoup parlé de Tolkien. On peut peut-être parler de fantasy en général, qui est un genre littéraire qui se réclame globalement de Tolkien ou pas. Enfin, en tout cas, qui s'en sert de référence pour s'y associer ou pour s'en éloigner. Il y a beaucoup de recyclage aussi dans la fantasy. C'est amusant de voir que dans la fantasy plutôt héritière de Tolkien, on a aussi ce réemploi de nombreux archétypes, mais qui viennent de Tolkien, qui ne viennent pas forcément directement de la mythologie. Je trouve ça très amusant de voir cette espèce de passage dans le temps d'un auteur à l'autre pour arriver à cette littérature qui est finalement, j'exagère peut-être, mais la mythologie moderne.
Alors là, je peux intervenir parce que pour une fois, je connais un tout petit quelque chose. Un tout petit, hein, je dis bien. Donc, aujourd'hui, la mythologie et la légende se sont réfugiés dans la fantasy et surtout dans l'heroic fantasy. Mais l'heroic fantasy, elle, ne fait que reprendre, en fait, la structure des grandes épopées médiévales de type Beowulf ou bien Nibelungen. Donc ça, c'est fondamental. Le deuxième point au niveau de la fantasy, c'est qu'elle pille, mais alors avec une outrecuidance fabuleuse, tout ce qui a été écrit au Moyen-Âge, tous les paysages que vous avez dans la fantasy, que ce soit sous la forme de BD, sous la forme de roman ou sur la forme de jeux vidéo, hein, tout a été pris dans les textes du Moyen-Âge, directement ou indirectement. La forêt enchevêtrée, le Val sans retour, le pont sous l'eau, etc. Tout ça, ça vient du Moyen-Âge. Donc, si vous voulez, moi, ça m'intéresse particulièrement parce que là, on a un revival, hein, littéralement une renaissance des anciens archétypes.
Donc, oui, pillage d'un certain point de vue. Moi, je préférais utiliser encore le terme de réemploi parce que, bien évidemment, la très grande majorité des auteurs de fantasy ne sont pas des pilleurs. Ils utilisent des thèmes médiévaux, des archétypes issus des mythes anciens dans un but de transmission de leur propre passion et de leur propre envie de partager quelque chose avec les auteurs. Donc voilà, c'était juste pour me permettre d'amender un petit peu ce qu'a dit Claude Lecouteux.
Les données des anciens cultes de la nature et de la vénération des dieux du paganisme ressurgissent. Mais ce qui frappe le plus, c'est le grand retour de la magie et de la sorcellerie. Dans Magus, François de Bois et Annabelle, par exemple, un certain Stanislas possède le don de se faire le réceptacle des sortilèges des derniers magiciens traqués par le pouvoir religieux. La panoplie magique provient presque entièrement du Moyen-Âge. Incantations, formules. Vous en voulez une ? Avada Kedavra. Ah, dans Harry Potter, hein, le plagiat est un peu gros, hein. Vous êtes d'accord. Donc, toujours chez Harry Potter, eh ben, le garçon possède une cape follette, c'est-à-dire une cape qui rend invisible. D'où elle vient, celle-là ? Eh ben, par exemple, de l'histoire de Siegfried. Hein, quand il veut coucher avec la belle Krimil, qu'est-ce qu'il fait ? Il passe ça et il remplace Gunther dans le lit de la belle. Non, mais c'est ça. Dans Harry Potter et la coupe de feu, on a le sorcier Peter Pettigrew qui utilise le sang de Harry pour faire renaître un mage noir nommé Voldemort. Donc, vous voyez, tout ça vient en droite ligne du Moyen-Âge. Ce sont des archétypes qui sont réutilisés. Je vais vous en donner un autre, puisque finalement, Tolkien connaissait fort bien la légende arthurienne, ce qui est normal, puisque tout Anglais a lu le Morte d'Arthur de Sir Thomas Malory. Hein. Tout le monde l'a lu. C'est une lecture d'école, hein, en plus. Bon, alors, les épées merveilleuses que vous avez dans tous ces jeux de rôle, BD et compagnie, le prototype, c'est Excalibur. Hein. Et nous retrouvons, par exemple, la thématique de cette épée dans celle de Godric Gryffondor, forgée par les gobelins, ou bien encore avec des escarboucles qu'on arrache à la tête d'un dragon, etc., et des hommes de terreur. D'où vient le homme de terreur ? Allez, on va les faire bosser un peu. Hein. D'où vient un homme de terreur ? Non ?
Moi, je sais.
Allez, non. J'ai cru qu'il allait dire « je sais », alors j'étais tout content.
Je sais.
Oh, menteur. Bon, eh bien, c'est un casque qui s'appelle Aegis Halmur, qui est porté donc par n'importe qui, puisque c'est un objet magique. Si vous le trouvez, vous le mettez, et aussitôt, votre adversaire meurt de peur, ou quasiment, ou il est paralysé. Et c'est ça, le... Voilà. Et là encore, réemploi direct. Et alors, vous voulez un petit tuyau supplémentaire ? Bon, ils n'ont pas dit oui, mais ils ne vous ont pas dit non. Donc, sachez qu'il y a une rune qui s'appelle Aegis Hjalmur. Mais cette rune-là, vous ne la trouverez jamais dans les alphabets scandinaves normaux, dans le Futhark. Jamais. Parce que c'est un autre alphabet, celui que personne ne connaît, et dans lequel vous avez uniquement des runes magiques. Ce n'est pas celles que vous achetez chez le gars du coin, dans un petit sachet, là, pour jouer, tirer au sort et compagnie, et apprendre l'avenir. Parce que tout ça, ça, c'est du bidon. Ce ne sont pas les bonnes runes, sachez-le. Bon, je vous rends la parole.
Très bien. On évoquait le réemploi, évidemment, puisque c'est le thème de notre discussion. Il y a un auteur américain dans les années 40 qui a travaillé sur cette question du réemploi et qui il s'appelait Joseph Campbell. Vous allez comprendre pourquoi je parle de lui, parce que je vais venir à l'autre question évoquée dans le titre de cette table ronde. Joseph Campbell, il a proposé une théorie selon laquelle, en fait, l'ensemble des contes et des mythologies répondent à une sorte de construction identique qui se transmet d'âge en âge, de civilisation en civilisation, et pour lesquels il a repéré un certain nombre de thèmes récurrents. Et ces thèmes récurrents, je les avais notés, c'est souvent un héros qui doit accepter ou renoncer à l'appel de l'aventure. Il subit un cheminement d'épreuves, il réussit ou il échoue. Il arrive à la fin de son aventure et donc il a atteint un but, il obtient un gain. Et puis ensuite, il retourne vers la vie ordinaire, mais il est changé, il a évolué. Et puis, l'utilisation de ce gain lui permet d'améliorer la situation autour de lui. Enfin, ce sont cinq grandes étapes que Joseph Campbell a intitulé le monomythe. Voilà, il en a écrit plusieurs ouvrages, dont un ouvrage très célèbre en 1949 qui s'appelle « Le héros aux mille et un visages ». Et il se trouve que cette façon de voir les choses de Joseph Campbell, elle a beaucoup intéressé un réalisateur américain qui s'appelle George Lucas. Vous voyez où je veux en venir. Et George Lucas, quand il a écrit le scénario de ce futur chef-d'œuvre cinématographique qui s'appelle Star Wars, le fameux épisode 6 tel qu'on l'appelle aujourd'hui, il a en fait calqué le schéma de Campbell en 5 points. Et quand on regarde dans le détail le livre de Campbell, Le héros aux mille et un visages, on retrouve l'histoire de Luke Skywalker, de sa rencontre avec Obi-Wan Kenobi, sa lutte contre Dark Vador, Darth Vader, la rencontre avec la princesse Leia, qui représente en fait la figure féminine presque divinisée dont parle Campbell dans son œuvre. Voilà, tous ces schémas-là, ces archétypes que Campbell décrit, George Lucas les a récupérés pour Star Wars. Et il se trouve que Campbell a eu énormément de succès à Hollywood, puisqu'il y a de nombreuses équipes de réalisateurs, puisque vous savez que les scénaristes américains sont souvent en grappe pour écrire des scénarios d'œuvres cinématographiques. Ils sont rarement seuls. Eh bien, ces scénaristes s'appuient très souvent et de plus en plus souvent sur les schémas proposés par Campbell dans son œuvre. C'est ce qui donne cette saveur presque unique au cinéma américain, cette impression qu'on a l'impression de voir toujours le même film. Voilà, c'est assez amusant. Donc, c'est un exemple de recyclage aussi, de réemploi des mythes à travers le temps et jusqu'au cinéma aujourd'hui.
Alors, je voudrais dire que, en fait, Campbell n'a rien inventé, parce qu'on retrouve exactement la même étude chez Vladimir Prop, dans la morphologie du conte merveilleux, qui, lui, a travaillé sur le conte au lieu de travailler sur autre chose. Mais je vais encore un peu plus loin, parce que, en fait, tous ces personnages n'ont rien inventé, puisque n'importe quelle personne lisant aussi bien la chanson des Nibelungen que Beowulf ou une toute autre épopée retrouvera strictement le même schéma à l'intérieur. C'est-à-dire que nous avons ici un schéma archétypal, en quelque sorte, où le héros est engagé, en fait, dans une quête de soi-même et de son identité. Et ça, c'est le dénominateur commun de toutes ces histoires. Alors, qu'il réussisse ou qu'il échoue, ça n'a aucune importance dans les mentalités anciennes. Ce qu'il faut, c'est qu'il essaye, qu'il tente. Comme ils disent aux Jeux Olympiques, l'essentiel, c'est de participer. Ben là, l'essentiel, c'est vraiment de tenter. Pourquoi ? Parce que cela signifie s'affirmer contre le destin. Donc là, vous voyez, on ouvre non seulement une fenêtre sur la genèse des représentations qui peuvent réussir à finir par créer des épopées, etc., mais on ouvre surtout une genèse sur la psyché de nos ancêtres. Et ça, pour moi, dans le cadre des études de mentalité, c'est particulièrement intéressant.
Je me moquais un petit peu de George Lucas et des scénaristes américains, mais finalement, ces archétypes... on les retrouve aussi dans le Hobbit de Tolkien, puisque c'est pratiquement, si on simplifie à l'extrême l'histoire, c'est pratiquement la même histoire que celle de Luke Skywalker. Vous remplacez Obi-Wan Kenobi par Gandalf, vous remplacez Dark Vador par le dragon, vous retrouvez finalement les mêmes schémas. C'est assez amusant. Et il se trouve que le Hobbit de Tolkien est antérieur aux travaux de Campbell. Donc c'est assez amusant de voir comment ces archétypes passent les générations avec finalement la même construction, le même schéma.
Mais à partir du moment où ils fonctionnent, ils perdurent, ça c'est, et ils deviennent même pérennes.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur Campbell ? Pas grand-chose. Peut-être qu'aujourd'hui, il est de plus en plus critiqué à cause d'une forme d'ethnocentrisme dans son approche. Cette volonté d'universalisme qui est plus tellement à la mode.
Alors disons tout de suite à sa décharge que à partir du moment où vous avez un pionnier qui va créer ou faire une découverte, le monde entier va dans la suite des années et dans la suite des temps s'acharner à essayer de démonter sa théorie de façon à minimiser son apport au maximum et de façon à se mettre en valeur soi-même. Et là, je parle en connaissance de cause parce que c'est le propre du monde universitaire.
en termes de méchanceté, comme ça, il y a un écrivain de science-fiction qui s'appelait Kurt Vonnegut dans les années 70-80, qui critiquait Campbell en simplifiant, en caricaturant sa théorie, en disant Campbell, c'est un héros a un problème, le héros règle son problème. Voilà, c'est comme ça qu'il caricaturait les archétypes découverts, enfin, c'est un peu rapide, mis sur le papier par Campbell. Nous, on a une vision, je crois, Claude, beaucoup plus...
En fait, c'est beaucoup plus articulé. Bon, on peut partir de la réflexion de ce court machin, là, pour dire que c'est une réduction vraiment à zéro, en fait, d'un schéma qui est beaucoup plus élaboré que ce qu'il laisse sous-entendre. Vous avez des étapes, et chaque étape est marquée, enfin, chaque franchissement est marqué, en fait, d'une façon ou de l'autre dans le texte, que ce soit par une image, par un événement ou par une description. Et ici, en tout cas, ce qui joue depuis le Moyen-Âge, c'est la description du paysage. Lorsque vous lisez un roman et que vous avez une description d'un paysage avec ceci ou cela, vous savez exactement que vous allez entrer soit dans l'aventure, soit dans l'autre monde. Hein ? Lorsqu'on vous dit qu'il traversa, son RER ne s'arrêta pas à la station et s'enfonça dans une brume qui semblait obstruer le tunnel. Et quand il arrive à la dernière gare de la ligne du RER, ben, il n'est plus sur Terre, il est dans un autre monde. Vous voyez ? On peut jouer comme ça. Mais on peut aussi élaborer des étapes successives. Et Propp a très, très bien démontré comment on pouvait... En fait, chaque récit a une structure ouverte. Et c'est à chacun de remplir la structure à sa façon en fonction de son propre imaginaire. Je parle des auteurs. Et bon, et ben là, pourquoi pas une petite digression qui va m'amener à la rencontre de... Et puis, cette rencontre, ah ben oui, mais ça ne donne pas de résultat. Alors, cette personne m'envoie chez sa sœur ou chez son frère. Mais là, ce n'est pas possible. Alors, on m'envoie chez un ermite. Et comme ça, vous avez ensuite des péripéties en cascade qui finissent par former un tout harmonieux. Et ça, c'est vraiment l'alchimie du conte, du récit, du roman et surtout l'art de l'écrivain.
Alors, ce qui est très intéressant chez Propp, c'est qu'il écrivait donc dans les années 20, 1928, je crois, la morphologie du conte, et il écrivait Propp en s'appuyant sur les contes russes. Donc, on n'est plus tout à fait en Occident. Hein, Propp, c'est plutôt les traditions slaves, mais ça marche quand même. Ça fonctionne pour toute la fabrication des contes dans cette sphère qu'on évoquait au début de notre discussion, l'Europe et puis le bassin méditerranéen.
Ça fonctionne même, je veux dire, on a parlé, beaucoup de chercheurs ont parlé de l'universalité des contes. Et dans une certaine mesure, c'est vrai, puisque vous avez des thèmes, en fait, qui sont humains de par toute la planète. Vous prenez un conte, par exemple, comme l'histoire des femmes oiseaux. Mais vous les rencontrez depuis la Papouasie jusqu'au fin fond de la Scandinavie. Donc, et ça, c'est un exemple parmi des centaines d'exemples. Donc, l'homme, et ici, Max Wundt a parlé d'unité psychique de l'homme, c'est-à-dire qu'il finit par se constituer un véritable patrimoine de pattern, hein, puisque c'est le terme technique, qui lui permettent d'élaborer tel ou tel récit. Alors là, vous avez des femmes oiseaux, mais ailleurs, vous allez avoir un forgeron, par exemple, pourquoi pas ? Et ce forgeron qui va fabriquer certains objets qui vont avoir une légende, etc. Et c'est à partir du moment où vous connaissez, disons, les thèmes et les motifs qui vous permettent de constituer un récit, si vous savez les employer, vous avez votre récit. C'est pas compliqué. Disons, c'est pas trop compliqué. Là, je peux vous le dire. Je peux vous dire que c'est pas très compliqué, puisque moi-même, j'ai écrit des romans. Donc, voilà. Ils sont peut-être mauvais, j'en sais rien.
Vous êtes un grand modeste.
C'est
Ça aussi, c'est un recyclage de d'archétypes. Je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire. Donc, si vous avez des questions, c'est peut-être le moment. Monsieur va apporter le micro.
Je n'ai pas de culture spécifique. J'ai simplement une grande curiosité de ce que l'homme, disons, à partir de l'Homo sapiens, disons, ce qui est commun à toutes les civilisations actuelles. Je voudrais savoir s'il y a des études sur les mythes africains. Ils ont leur culture, je pense qu'il y a des gens qui recueillent l'oralité de ces civilisations. Et vous parliez d'archétype, un archétype c'est très ancien, ce n'est pas que le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est un héritier. Donc je voulais savoir, entre autres, s'il y a des études sur l'apport de ce qu'on sait maintenant sur les civilisations africaines. Et si on trouve des archétypes qui remontent assez loin, en fin de compte, qui pourraient remonter assez loin.
Alors là, vous basculez dans une autre problématique qui est en fait la survie dans les sociétés dites premières de données qui viennent en réalité de la préhistoire et même peut-être de la proto-histoire. Oui. Et on s'appuie notamment pour décrypter ces mythes-là. On s'appuie à la fois sur des données physiques et sur des données, disons, picturales. Par exemple, les peintures du Sahara, qui ont été très bien étudiées par Jean-Loïc Lekelec, vous apportent déjà des éléments de réponse.
Jean-Claude a travaillé avec un préhistorien aussi sud-africain et a émis l'idée qu'il y avait du chamanisme.
Mais il y a du chamanisme. Il y a du chamanisme. Vous savez, mais même en Europe, il y a du chamanisme. Moi, j'ai écrit autrefois un livre qui a démontré par A plus B que nous avons en Europe occidentale du chamanisme et des vestiges extrêmement importants qui se manifestent, entre autres choses, par la fameuse résurrection des animaux tués à la chasse. À partir du moment où on dispose correctement leurs os sur leur peau, et le lendemain matin, l'animal revit. Bon, mais ça, je veux dire, ça se perd dans la nuit des temps. Les Lapons connaissent ça, et les peuples ouro-altaïques connaissent ça. Donc là, on est vraiment dans des données, mais hyper anciennes. Et je vous dis, proto-histoire, et il y en a même qui parlent du paléolithique. Moi, je ne peux pas aller plus loin parce que je ne suis pas compétent.
La transmission de l'oralité est quelque chose d'étonnant. C'est qu'effectivement, des schémas ont traversé le temps sans forcément passer par la case écriture. On le pressent sûrement pour tout ce qui est mythe européen, mais on le voit pour ce qui est des mythes africains. Mais c'est vrai que dans nos sociétés modernes, où tout va très vite et où le passage par l'écriture est devenu finalement... Une obligatoire, tout ce qui est oralité est en danger aujourd'hui, effectivement. Et l'oralité africaine, mais l'oralité asiatique aussi, dans certaines régions asiatiques, l'oralité sud-américaine, tout ça est en grand danger de disparaître.
Oui, mais on est en train de les recueillir à la vitesse grand V, enfin, dans certains secteurs. Et d'autre part, on oublie aussi beaucoup trop souvent qu'il y a eu de très grandes collectes qui ne sont toujours pas publiées, du reste, qui ont été faites en Amérique du Sud, et notamment par un Français dont le nom de famille est Noël. Et sa collection, elle, a été utilisée par les Allemands pour faire des recueils de contes. Vous voyez ? Donc ça, c'est encore les aberrations. En France, il n'a pas été reconnu. Si vous cherchez son nom, vous ne le trouverez pas.
On a un indice.
Spécialiste, personne ne le connaît.
Qui s'appelle Noël.
Pour ceux qui s'appellent Noël, point final.
Ce matin, lors de votre conférence, vous parliez de l'évasion que procure le conte. Et moi, je me demandais si on pouvait aussi parler de fonctions éducatives. Finalement, dans tous les temps, on a lu des contes aux enfants. Est-ce que finalement, ça peut mener à une initiation ou à quelque chose qui permettrait d'éduquer ou de, en plus de la transmission orale?
Et tout à fait. On peut très bien éduquer par le conte. On guérit par le conte. on suscite des vocations par le biais du conte. Si vous voulez, c'est le premier, pour moi, c'est la première marche d'une démarche, en quelque sorte, pardonnez-moi, je m'exprime mal, là, mais d'une démarche qui va vous conduire à un aboutissement et à la réalisation de vous-même, celle dont je parlais. Parce que dans le conte, pour celui qui sait le lire et y réfléchir surtout, et pas simplement le prendre comme un divertissement bêtasse pour petits enfants, non, celui qui sait le lire, il va trouver dedans toute une morale, toute une ligne de conduite de vie, absolument, qu'on doit absolument respecter. Donc en ce sens, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est pédagogique, c'est très très pédagogique. Et d'autre part, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la différence entre certains pays. Parfois, enfin, disons dans les contes de Grimm et compagnie, le méchant est toujours puni. Vous êtes d'accord ? Ouais. Eh bien, moi, j'ai des centaines de contes où le méchant n'est jamais puni. Je peux vous le dire, parce que avec ma femme, on en a traduit plus de 1000 hein, jusqu'à maintenant. Donc, voilà. Comment expliquer ça ? Est-ce que ce sont des anti-quelque chose ? Mais non, mais simplement, il faut impérativement avoir un modèle. Bon, et peut-être que c'est un épouvantail, celui qui n'est pas puni. Mais moi, j'avoue que ça me choque. Je suis très, très vieux jeu, hein, mais ça me choque. Le type qui s'est conduit vraiment comme un monstre, c'est un assassin, un parricide, tout ce que vous voulez. Et la fin du conte ne dit pas qu'il est exécuté, brûlé, empalé. Rien. Ah non, c'est choquant. Hein.
Malheureusement, c'est ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. En fait, les méchants ne sont pas toujours punis et ouais. C'est la réalité. Mais...
Oui, donc c'est une réalité de tout temps. Et c'est en ça que le conte est toujours moderne, parce qu'il est hors du temps et donc de tout temps.
Et retenons que le conte est bon.
Ouais. Ça fait un beau mot de la fin, ça.
Moi, j'avais deux petites remarques. Oui. D'abord, à propos de l'Afrique, il y a quand même tous les travaux de Marcel Griaule sur les Dogons. Hein, donc, je pense qu'on peut vraiment beaucoup réfléchir là-dessus. Par rapport à ce que vous disiez, madame, je crois que c'est Bernard Chouvier qui a beaucoup écrit sur l'utilisation des contes sur le plan thérapeutique et sur le plan éducatif. Et alors, si on a encore un petit peu de temps, moi, j'avais une question. Il y a des liens entre le mythe et le conte. Par rapport à ce que vous disiez, monsieur, j'invite les gens qui sont là à lire la deuxième partie de La Belle au bois dormant, qui est souvent pas bien connue. Et vous allez voir que là, il y a des choses absolument horribles qui se passent avec des ogres, des ogresses, des choses extrêmement violentes. Donc le conte, à mon avis, il n'est pas quelque chose qui se termine bien, mais il est quelque chose qui propose une issue à un conflit initial. Moi, je pense profondément que le conte est là pour guérir le mythe. Le mythe est quelque chose qui est tragique et le conte propose une solution. Pas du style happy end, mais du style, il y a la possibilité, dans ce que vous aviez dit avant, dans le cadre de on essaie quelque chose, et là, le conte propose une issue. Mais par rapport à votre remarque, ma question, c'était, vous avez dit, je reprends votre phrase, c'était, du coup, on peut apprendre quelque chose sur la psyché des ancêtres. Mais est-ce que la causalité n'est pas dans l'autre sens ? C'est-à-dire qu'au fond, il y a une psyché qui relèverait peut-être juste de cette proto-histoire, ou en tout cas au moins du néolithique ou avant, et que finalement, le mythe comme le conte ne sont que de mise en scène de ces scénarios archétypiques.
Alors là, je suis réduit à cuilla pour l'instant, hein, parce que répondre à ces questions, c'est-à-dire se replonger finalement dans la tête de nos lointains ancêtres, je ne crois pas que ce soit possible, donc d'apporter une réponse ferme et définitive, hein, ça d'une part. Alors, deuxième chose, vous avez parlé de la dimension thérapeutique. Alors, j'ai travaillé très longtemps au sein d'une société savante qui utilisait le conte dans les asiles psychiatriques, avec des résultats étonnants. Donc ça, en revanche, je peux en parler. Et puis, vous avez encore évoqué un troisième point, à propos des Dogons, effectivement, mais là, c'est toute une littérature qui sort donc de mon domaine de compétence. C'est pourquoi je n'en parle pas. Hein. En Afrique, je connais quelques micro-points sur ceci ou sur cela, par exemple sur les enfants revenants et des choses comme ça, parce que ce sont des éléments qui se sont recoupés avec des sujets sur lesquels je travaillais. Donc c'est tout.
En tout cas, merci pour la précision, parce que c'est vrai que ça nous a permis de compléter notre réponse à madame.
En quoi le conte pouvait aider à vivre ou à se racheter ?
Ah ben, c'est pas compliqué. Regardez, le petit défavorisé, le dernier de la fratrie, etc., celui qui traîne les fesses dans la poussière et qu'on appelle Cussandron et tout ça, mais c'est lui qui s'en sort le mieux. Quel beau message d'espoir, hein ? À savoir, vous êtes moche, vous êtes petit, vous êtes sans force, vous êtes le dernier, vous êtes vraiment bon à mettre au panier. Eh bien, c'est vous qui remporterez la palme. C'est vous qui épouserez la princesse. Franchement. Hein ? Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour dire que ça, c'est super. Hein. Moi, j'avoue que ça me plairait bien.
C'est une des fonctions intéressantes du conte, c'est qu'il y a effectivement l'évasion, il y a aussi l'émerveillement que procure le conte, et puis il y a la consolation, justement, de l'issue du conte, surtout quand elle est plutôt positive.
J'ai pas à me plaindre parce que je suis pas beau, je suis pas grand, je suis pas costaud, mais j'ai tout de même rencontré une fée. Alors.
Bon, si vous en êtes d'accord, ça va être le mot de la fin, parce que je crois qu'on a largement dépassé.
Là-bas, il y a un jeune homme qui.
Pardon.
Oui, c'était sur le recyclage. Vous avez sur le recyclage des archétypes. Donc vous avez parlé de Tolkien, vous êtes passé à la fantasy, au cinéma. Vous n'avez pas parlé des jeux vidéo, qui intéressent quand même toute une partie de la jeunesse. Et je voulais savoir, selon vous, quel est le rôle des jeux vidéo dans le recyclage des archétypes ? Et est-ce que l'écran modifie cette image ? Et est-ce qu'on le retrouve ? Et est-ce qu'on retrouve la même psyché ? À savoir qu'il est important de participer pour le héros, ou cette fois-ci, est-ce qu'il est important plutôt de gagner.
Alors, je ne suis pas un spécialiste des jeux vidéo, mais effectivement, en tout cas, pour le peu de choses que je connais sur les jeux vidéo, effectivement, il y a un recyclage qui est évident. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le jeu vidéo permet peut-être plus que le conte, enfin différemment en tout cas par rapport au conte. Je ne vais pas l'appeler le lecteur, puisqu'on ne peut pas parler de lecteur dans un jeu vidéo, mais en tout cas à celui qui rentre dans le jeu, de participer en fait à ce qui se déroule. De participer au mythe, d'être acteur du mythe. Enfin, c'est comme ça que je le vois, mais je me trompe peut-être. Encore une fois, je ne suis pas du tout un spécialiste, ni un joueur.
Dans les années 1980, il existait toute une collection de livres qui s'appelait « Le livre dont vous êtes le héros ». Bon, ça, c'était avant l'informatique et compagnie, etc. Mais maintenant, le livre dont vous êtes le héros, c'est le jeu de rôle. Et donc, le rôliste, en fait, reprend exactement la même chose. Or, si vous prenez n'importe quel jeu de rôle, il va toujours se composer de la même façon, c'est-à-dire à partir d'archétypes empruntés les trois quarts au Moyen-Âge. Ben, ça, c'est quasiment obligé. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir des labyrinthes, vous allez avoir des monstres, vous allez avoir des sorciers, des magiciens, mais tout le personnel habituel, je veux dire, par rapport aux livres anciens, il n'y a aucune différence. Simplement, là, la technique est rentrée en vigueur et vous jouez sur votre ordinateur, tranquille, perso, ou en groupe, ou en réseau, comme vous voulez. Mais prenez World of Starcraft, par exemple, ben, oui, c'est devenu... c'est mondial, c'est... Tout le monde joue, tout le monde connaît ça. Il y en a d'autres qui jouent à Warhammer, ce qui est pas mal non plus, hein, celui-là. Tranquillisez-vous, moi, je joue pas, numéro un, et toutes les infos que j'ai, c'est par mon fils. Bon. Parce que lui, il joue, mais pas moi.
Alors moi, en bon tolkienien, j'ai joué autrefois au jeu de rôle de la Terre du Milieu, mais c'est une époque qui est bien révolue maintenant. Mais effectivement, ça laissait la possibilité aux joueurs de s'emparer du rôle du héros. Et c'est vrai que c'était plutôt intéressant. On était non plus spectateurs, mais acteurs. C'est le petit plus peut-être que peut apporter le jeu et le jeu vidéo qui est l'extension finalement du jeu et du jeu de rôle. Merci à tous. Merci Claude.